Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jala Maria Longa n'a que 34 ans et a déjà vécu plusieurs vies. Née au cœur des montagnes ariégeoises, cette âme rebelle raconte son enfance hippie dans son premier livre « Enfance sauvage ». Ses parents, Barbara et Patrice, avaient choisi dans les années 70-80 de vivre en autarcie et de fuir la société de consommation. Une autre vie, une autre philosophie.
Cette histoire de refuser vraiment même les aides sociales du système, ça m'interpelle sur... le modèle économique de l'époque, est-ce que tu as une idée de ce que tes parents dépensaient par mois? Donc là, on est dans une maison où il n'y a pas de loyer à payer, on n'a pas de facture d'électricité à payer, on n'a pas de facture d'eau à payer. Quelles sont les charges à ce moment-là? Quelles sont les dépenses de tes parents quand tu étais enfant?
Mais pas grand-chose. C'était vraiment pas grand-chose parce que, ils troquaient ce qu'ils n'avaient pas, ils le troquaient avec des fermes de Basse-Ariège. Du coup, il n'y avait aucune facture. Si mon père, après, il est devenu agriculteur. Mais au tout départ, il y avait les impôts qui n'étaient pas grand-chose. Mon père avait réussi à se faire payer la ferme. Il avait ses parents qui lui avaient aidé. Il lui avait payé, mais il les a remboursés plus tard. Et c'est une histoire invraisemblable, ce qui s'est passé. C'est un peu magique. Du jour au lendemain, ils n'ont plus touché les allocations familiales. Alors, quand on vit en autarcie comme ça, avec rien, même si on a 2-3 enfants, rien que les allocations pour 2-3 enfants, à l'époque, c'était énorme pour eux. Ils avaient bien plus que de deux. Ils ont pu acheter des matelas, ils ont pu acheter tout ce qu'on va dans une maison pour fermer la maison, pour mettre un toit sur les granges, pour mettre... Donc, c'était dans l'utilité, toujours. Hein. On n'achetait jamais...
De four à micro, électriques, ça marchait pas.
Tout ça, il n'y avait pas. Et du coup, c'était vraiment dans l'utile. Qu'est-ce qu'on peut acheter quand on est en autarcie, quand on arrive de la ville, mais juste pour vivre de besoin en montagne. C'était les vaches, les animaux, le foin, ils le faisaient. Donc c'était vraiment, tout ça, il fallait quand même avoir de l'argent pour acheter des chevaux, des cochons.
Et la voiture, non, jamais ?
Jamais, alors ça, jamais. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, plus d'allocation familiale. Mon père commence à se demander, c'est peut-être parce que j'ai eu une petite sœur qui est décédée. Et ils ont pensé à ce moment-là qu'il y a eu un hic, que c'est parce qu'il y a la petite qui était décédée, donc plus d'allocation. Ils n'ont jamais vraiment cherché à comprendre pourquoi ils avaient pu... Et ma mère, c'est elle qui l'a motivée. Tu sais quoi, on n'a pas besoin de cet argent-là. On n'a pas besoin, regarde, on a tout. Les premières années, c'était dur. Quand on est arrivé, que j'étais enceinte, que les premières années, ils avaient zéro sou. Et il a fallu se débrouiller. Il fallait quand même, à ce moment-là, les premières années, le jardin, il n'est pas fait. Il n'y a pas de légumes, il y a pas la viande, elle n'est pas encore là. Donc, ça, ils ont connu des années très pauvres. Et du coup, elle lui a dit, écoute, aujourd'hui, on a l'habitude, nos enfants sont grands, grands. Ils ont 6, 7 ans, 8 ans, on a notre jardin, on a notre viande, on a tout ça, on n'a pas besoin de cet argent-là. On veut vivre sans rien. Eh bien, on va vivre sans rien. Mon père, il a joué le jeu, il a trouvé ça très, très, très audacieux, mais voilà, ça lui parlait. Donc, ils ont vécu pendant plusieurs années comme ça. Jusqu'au jour où il y a un huissier de justice dedans, dans le livre, je la raconte, qui arrive à la maison. Ma mère était toujours souvent à poil. Il arrive trop gêné, il ne sait plus où se mettre. Donc, elle met une jupe qu'elle remonte jusqu'en haut de ses seins pour pas qu'il soit gêné. Et il dit, il se présente, je viens parce que vous avez coupé les poteaux électriques. Où sont-ils? Vous n'avez pas le droit de couper, c'est interdit. Et mon père, il dit, ils sont derrière vous. Et il se retourne, et là, il y a un poulailler. Un poulailler qui a été fait avec ces fameux poteaux électriques. Il dit, vous êtes hors la loi. On vient saisir, parce qu'il y avait une grosse somme à payer, etc. Alors, il rentre dans la maison, mon père. Il le fait rentrer, ma mère aussi. Ma mère très accueillante, parce qu'ils étaient très ouverts. Donc, vous voulez un café, etc. Venez rentrer. Et là, quand l'huissier, il arrive en costard cravate, bien pincé, avec sa petite mallette, il arrive dans la maison. Et là, c'était... Il regarde autour de lui, il voit une cheminée, des tapis par terre, aucun meuble, pas de cuisine, pas d'évier, rien, pas de machine à saisir, rien. Enfin, il n'y a pas de machine à laver, pas de micro-ondes, pas rien, absolument rien. Il se retourne, il devient tout blanc, il dit vous avez bien. Il veut voir les chambres, il monte, pareil, on dormait à l'époque sur du foin, il y avait des tapis dessus, donc il n'y avait rien à saisir. Et il fait, bon, ben, vous avez bien un véhicule. Et là, mon père, il rigole et puis il l'emmène à la charrette. Et tout, voilà. Donc, il n'y avait rien. Il a très bien vite compris qu'ils étaient, il n'y avait aucun moyen. Et donc, il y a un deuxième huissier qui est venu voir mes parents, qui connaissait un petit peu l'histoire et qui dit, oui, mais vous ne touchez plus les allocations depuis plusieurs années. Et mes parents disent, oui, on n'a jamais trop su. Pour quelle raison exactement? Je vais faire ma petite enquête. Et du jour au lendemain, parce que toute famille qui a des enfants, à l'époque, il faut savoir que eux, ils pensaient qu'on n'avait plus d'argent parce qu'on n'était pas scolarisés.
Et vous, on n'en a pas parlé de ça. Vous étiez né à la maison aussi.
Oui, exactement, on est né à la maison. Et mes parents pensaient donc du jour au lendemain qu'on n'avait pas eu d'argent parce que soit par rapport à la mort de ma petite sœur, ou aussi c'était dit on ne scolarise pas nos enfants, donc il doit y avoir, on n'est pas payé pour ça. Or, ce qu'il faut savoir, il y en a beaucoup qui ne savent pas, on a le droit d'instruire nos enfants. À l'époque, c'était possible d'instruire les enfants à domicile. Mon père nous apprenait à lire et écrire d'un niveau CP. C'est pas grand-chose, mais c'était possible. Donc, c'est ce qu'il faisait. Et donc, cet huissier, le deuxième huissier, a fait ses recherches. Et du jour au lendemain, parce qu'on n'a pas le droit d'enlever les droits familiales, enfin, ça ne se fait pas. Les allocations familiales étaient reversées à toute famille. On n'était pas hors normes. Du coup, du jour au lendemain, ils ont reçu une somme de 10 ans, je ne sais plus combien d'années, qui n'a pas été payée. Et donc, ça a été, pour mon père, énorme, parce qu'il a pu acheter tous les terrains autour de la maison. Et il est devenu agriculteur à partir de ce moment-là. Donc acheter tout ce qu'il pouvait, tous les terrains qu'il fallait, les animaux qu'il fallait, donc davantage. Rembourser la maison aussi qu'il y a eu pour mes parents, que ses parents avaient payé. Donc voilà, son rêve s'est réalisé à ce moment-là. Donc comme quoi, mais finalement, ils n'ont pas regretté d'avoir coupé ces poteaux électriques.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Aujourd'hui encore, il y a toujours cette mouvance de personnes qui aspirent à vivre autrement, sortir d'un système qu'on trouve trop matériel pour vivre de manière plus simple et plus proche de la nature, quelque part retrouver un essentiel. Et toi, ton parcours est juste incroyable parce que tu es complètement dans cette simplicité ou sobriété heureuse sans le savoir toute ton enfance durant, jusqu'au moment où tu as des choix à faire dans ta vie d'adulte. Comment est-ce que tu te positionnes aujourd'hui par rapport à cette simplicité volontaire ou sobriété heureuse ?
Ben c'est marrant parce que aujourd'hui, si je dois me positionner, je pense que j'ai trouvé mon juste milieu. Après, c'est très relatif, le juste milieu pour certains, il est très différent. Donc, j'ai voulu partir. Donc, bien sûr, on était heureux hein, quand on était petit. Moi, j'ai aucun regret sur l'enfance que j'ai eue. J'ai dû me battre à une certaine époque, mais juste pour me réaliser. Je suis partie donc après en ville. J'ai vu l'autre extrême parce que finalement, je suis passée d'une extrême à l'autre. Et là où je me sentis le mieux, c'est dans la nature, finalement. Justement, on est en harmonie. Moi, je dis souvent que la nature, elle n'a rien oublié. Et quand on a grandi avec, effectivement, elle n'oublie rien. Quand, par exemple, tu rigolais tout à l'heure quand je parlais de la pommade guérit tout de maman. Mais c'est tout simple. Nous, on a été guéris avec tout ce qu'il y a dans la nature, avec les plantes. Et ça marche, ça fonctionne. On n'a jamais été voir un médecin. Alors, d'après le médecin, on a eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'effectivement, si on a confiance en elle, si on a confiance dans la nature, on a tout. On est riche. Il y en a beaucoup qui nous disent, mais des fois nos enfants, ils me demandent aujourd'hui, donc, maman, est-ce qu'on est riche? Je dis, ça dépend ce que tu appelles riche. Parce que justement, moi j'essaie de jouer, de vivre dans le juste milieu, c'est-à-dire maintenant on a acheté un petit chalet et on n'a pas la télé. Après, on a Internet. Moi, je travaille, donc, comme je suis écrivain, je travaille sur Internet. Je fais pas mal de recherches, je travaille avec, c'est mon outil. Nos enfants, je ne veux pas les couper complètement du monde. Donc, on a On a l'écran, ils peuvent regarder les films, ils sont à jour. Quand ils reviennent de l'école, oui, alors nos copains, ils nous parlent de ça, ça, ça. Bon, d'accord, hop, on fait des recherches sur Internet ou on va acheter des CD. Enfin, je ne les coupe pas. Après, tout est question d'équilibre. Et aujourd'hui, j'ai une maman très extrême, d'un côté où elle repoussait tout. Et moi, ma guerre intérieure ou ma recherche de l'équilibre, finalement, c'est d'être toujours dans le juste milieu. Je ne veux pas priver mes enfants de l'extérieur. Donc, quand ils me parlent de quelque chose, on va faire des recherches, on va le chercher. On regarde souvent un film le week-end en famille. On est ensemble. Si je ne suis pas dispo, ils le regardent entre eux. Donc, c'est vraiment le week-end, ce n'est pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que quand ils étaient petits, au départ, je dis, bon, ben, vous pouvez regarder un film par jour. Et je me suis rendu compte que... ils ne voulaient plus rien faire. Ils attendaient qu'une chose, c'était cet écran. Hypnotisés par l'écran, on devient forcément accro. Et je me suis dit, mince, bien sûr, j'étais ramenée à mon enfance. Me dire, mais nous, on n'avait rien et on se faisait des cabanes dans les arbres. On partait jouer, on partait chercher des fleurs. On allait jouer avec ce qu'on avait finalement. On n'avait pas de matériel, mais on avait la nature qui nous donnait. On peut faire beaucoup de choses avec. Et je me disais, c'est triste. Et donc, en parlant, mon mari, il a grandi comme toi, comme tout le monde en ville. Et je disais, tu sais, je pense que pour leur équilibre, il faudrait trouver un juste milieu. Et donc, on a instauré ce planning-là de regarder un film en famille ou un reportage ou ce qu'ils veulent le week-end en famille ou le mercredi quand il n'y a pas l'école. Et tout le reste du temps, ils pourraient lire, écrire, jouer. Enfin, il faut qu'ils développent leurs envies. Donc, j'ai certains outils. Mais ensuite, on a les toilettes sèches, je fais mon petit potager, on mange nos légumes, parce que je me dis quand même que c'est extraordinaire. Et puis, j'aime bien faire mon petit jardin. C'est plus comme quand on était petit, on était obligé, il fallait survivre. Donc, on faisait beaucoup de jardin, on travaillait énormément. Et ma mère me disait souvent, elle pensait que j'aimais pas ça. Et aujourd'hui, souvent, elle sourit parce que je l'appelle. Je lui dis, oui, mes haricots, ils sortent pas. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Et du coup, voilà, elle est très contente de voir que finalement, ça porte ses fruits. Même si on n'est pas à 100% comme elle, moi je pense que c'est énorme, c'est déjà énorme. Enfin, et la nature, bien sûr, je suis avec elle, je suis souvent, ben, mes enfants, je leur apprends à la respecter, à être en harmonie avec elle. Et sans pourtant, tout autant, je leur dis, ben, un jour, peut-être que vous irez en ville, vous irez étudier, vous irez faire. Il y a plein de belles choses à apprendre, il y a plein de... Je pense que c'est Il y a un équilibre dans tout ça. On peut très bien vivre. J'ai vu des personnes qui vivaient en ville et qui me disaient, mais tu sais, on vit en ville, donc on consomme que bio, on fait attention à ce qu'on achète, à ce qu'on mange. On ne prend que les... On n'a pas de voiture, donc on prend les transports en commun. Est-ce que c'est pas plus écologique que celui qui prend sa voiture en montagne tous les jours? Donc, et bien sûr, ça interpelle. Je me dis, oui, pourquoi pas? En fait, c'est à chacun de trouver son petit...
Finalement, je comprends que tu vis encore de manière très simple. Hein. Tu vis proche de la nature, ton équilibre, tu le trouves en partie grâce à elle. Tu n'as pas forcément de gros besoins matériels. Est-ce que tu essayes vraiment d'être dans cette conscience de dire « Ok, j'ai de l'électricité, mais je n'ai pas envie d'être raccordé à une centrale. Je préfère développer une autonomie aussi à ce niveau-là en mettant un panneau solaire. »
Eh bien, aujourd'hui, c'est une très bonne question parce que justement, on a mis du solaire chez nous, on a installé alors qu'on a l'électricité qui arrive. Mais bien sûr, je me dis, j'ai un petit frère, par exemple, qui, lui, rêvait d'être riche. Aujourd'hui, il vit du bâtiment, donc il s'en sort très, très bien. Mais par contre, il a fait un système de turbine. Il a absolument tout le confort chez lui. Et quand ma mère le regardait d'abord avec des gros yeux, il dit, écoute, c'est très écologique. Je dépends, je suis autonome à 100%. Et c'est un peu ma recherche intérieure aussi de me dire, mais la nature, elle nous donne tout. On peut avoir tout le confort avec ce qu'elle nous donne. C'est ça qui est incroyable. Quand on regarde au fond, et bien sûr, on n'a qu'une voiture, on en a eu deux. Et je disais à mon mari, écoute, moi je travaille à la maison, je pourrais très bien faire du vélo quand on bouge, ou même toi ton boulot il n'est pas loin, on n'a pas besoin d'avoir de véhicule, on n'a pas besoin d'avoir de portable. Déjà si on en a un, c'est énorme, on a le fixe à la maison. Enfin moi, si ça tenait qu'à moi, je n'aurais pas le portable. C'est plein de petites choses comme ça qui... Après je suis quelqu'un qui... Je me contente de peu. Je ne sais pas si c'est en relation avec... Je ne pense pas, ça doit être dans mon caractère aussi, parce qu'on est 8 frères et sœurs, on est tous très différents. Il y en a qui ont absolument tout, hein. Et d'autres qui n'ont absolument rien. Donc on est vraiment... Et moi, je me positionne encore dans le milieu. Dans le milieu, dans le sens où oui, mon mari a un portable, on a une voiture, J'essaye tout le temps. Mes enfants, par exemple, ma fille, quand elle est rentrée au collège, maman, j'ai rien à me mettre. Et je la vois qui enlève tous ses vêtements. Et là, je la regarde, je dis, mais tu rigoles, t'as tout, mais tout simplement, mais non, mais mes copines, elles ont le dernier cri, elles ont tous la déesse, moi, j'ai pas la déesse. Et là, ben, je la regarde et je lui explique, je lui dis, viens, on va faire un voyage. Et donc, on part dans certains peuples, parce que voilà, je me dis que la morale, on a beau dire à notre enfant, mais non, ça, c'est pas bien, nanana, c'est pas évident, ils peuvent pas le savoir. Ça, j'en ai la conviction, parce que j'ai vécu sans rien. Et je me dis que si l'enfant, il n'est pas confronté, bien sûr, alors je lui dis, bah, écoute, tu vas chez mes parents pendant une semaine, et après, tu reviens et tu me diras si t'as rien. Et je pense que c'est la meilleure école finalement. Donc moi je pense que je suis dans le juste milieu et ça me parle bien. Voilà, les vêtements, est-ce que je consomme beaucoup? Je pense pas. Après c'est marrant par rapport à notre enfance, du fait où je me dis, ouais, mais est-ce que j'en ai l'utilité? Ça va toujours être ma question, c'est est-ce que c'est utile? Oui, vas-y, si on se pose la question, bien sûr, tout est différent. Ouais. Tout est différent si on se pose la question vraiment, est-ce qu'on en a besoin?
Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui, combien tu dépenses par mois?
Pas grand chose, je pense. Hein, bah, je sais pas. Je pense pas grand chose parce que bon, j'ai mon mari qui travaille à côté. Moi, j'avais ma location de VTT depuis 10 ans, je l'ai arrêtée. Depuis que j'écris énormément, il a fallu faire un choix. Après, on sait bien qu'on n'est pas riche en écrivant des livres. J'ai ouvert ma petite maison d'édition aussi. C'est un tout nouveau projet, donc j'avance doucement. De la manière dont on vit, pour nous, ça nous suffit. Voilà, mais on a, voilà, comme je disais, on n'a qu'une voiture, donc il y a la voiture, les dépenses de la voiture. On a donc l'électricité à payer, l'eau à payer. Vous dire exactement combien je dépense par mois, pas grand-chose finalement. Ce qui coûte le plus cher finalement, c'est à chaque fois, je me dis, c'est quand on va faire les courses, même si j'ai mes légumes, c'est les courses finalement, c'est une grosse dépense. Il y a ça, et puis il y a le petit loyer pour la maison, parce qu'on a fait un petit crédit, mais pas gros. On doit s'en sortir à nous cinq, je dirais entre 500 et 700 euros par mois.
Est-ce que tu es riche?
Je pense. Alors ça dépend où on pense la richesse. Voilà, la grande question de mes enfants, je dis, pour moi je suis riche. Je leur réponds oui, je suis riche. Ils me disent, mais je leur réponds, on n'est pas riche dans le sens où on a beaucoup d'argent. Par contre, on a tout ce qu'il nous faut. Et bien sûr, j'aimerais bien être un peu plus riche si j'étais un petit peu gourmande pour faire plus de voyages, parce qu'on est cinq et que l'avion coûte très cher. Voilà, c'est là où je me dis, bon, ben, des fois, ça serait... Voilà, parce qu'on essaye toujours de voyager et cette année, on aimerait bien, mais voilà, le hic, c'est de savoir est-ce qu'on aura l'argent pour, je ne suis pas sûre.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir été pauvre dans ta vie d'enfant? Ou qu'est-ce que c'est qu'être pauvre?
Non, pour moi, j'étais pas pauvre. On n'était pas pauvre, finalement, on avait tout ce qu'on voulait. Bien sûr, après, si on compare à tout ce que nos cousins, cousines ou nos amis avaient en ville, par rapport aux jouets, par rapport à ce qu'ils dépensaient, c'était énorme, finalement. Mais bien sûr, par rapport à eux, si on parle au niveau du matériel et de l'argent, on était pauvre. Mais en fait, on a manqué de rien. Et c'est là où mes enfants, aujourd'hui, je les éduque, dans le sens où pour moi, c'est vachement important qu'ils se rendent compte que l'argent, c'est pas ça qui donne, c'est pas ça qui nous rend plus heureux finalement. Pour moi, la richesse, elle est ailleurs. Et après, c'est toujours compliqué de dire ça à un enfant. Ben, il va peut-être pas forcément comprendre pourquoi lui, il n'a pas tous les jouets du dernier cri. Et moi, je dis à ma fille souvent, là, elle a 12 ans, donc elle rentre dans l'adolescence. Je lui dis, elle me dit, pourquoi, maman, tu ne me payes pas un portable comme mes copines? Je dis, mais tu sais, déjà, moi, j'ai pas de portable. Et deuxièmement, est-ce que tu en as vraiment besoin? On a un portable, tes copines, tu peux leur envoyer des SMS. Si tu veux, je te fais une adresse mail, tu corresponds avec elles. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Mon but, c'est qu'à 18 ans, si tu as envie, j'aimerais pas tout te donner maintenant. J'aimerais bien qu'à 18 ans, ben, que tu aies des rêves, tu aies des envies. Et ces envies-là, il ne faut pas que papa et maman les aient payées déjà. Il faut que, à cet âge-là, eh bien, tu te donnes des défis, tu as envie d'avoir, eh bien, je vais faire des saisons, je vais me payer mon permis voiture, je vais me payer mon... Si on te paye tout, qu'on te donne tout finalement sur un plateau, qu'est-ce que tu vas faire à 20 ans? Est-ce que tu auras cette ambition que moi j'ai eue parce que je n'avais rien? C'est la grande question que je me pose, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui ont eu tout par papa-maman, ils s'en sortent très bien. Je ne veux pas encore tomber dans les idées préconçues qu'on ait, mais quand même, au fond de moi, je me dis, ben, voilà, si tu as de l'ambition... Je serai rassurée.
Ce matin, la plus jolie des fleurs éclore dans mon jardin. Quel bonheur, depuis le temps qu'il ne poussait que du chien-dent, ou bien quelques mauvaises herbes de temps en temps. Je voudrais bien te cueillir, tu vois, mais alors tu faneras entre mes doigts. Car jamais on n'a cueilli une fleur sauvage, douce, fragile et légère comme un nuage. C'est une fleur des champs, libre comme le vent. C'est une fleur des champs, une fleur du printemps. Une fleur des prés. Une fleur des prés. Se saisit d'une fleur sauvage. Dans un pot, elle est comme un oiseau en cage. Alors je me suis assis près de mon ami et j'ai décidé de rester là pour la vie, pour protéger celle que j'aimais contre tempêtes, vents et marées. C'est une fleur des champs, libre comme le vent. C'est une fleur des champs, une fleur du printemps. Une fleur des prés.
Djala Maria, tu as eu une enfance assez exceptionnelle, un peu hors du commun. Tu as grandi ici avec tes frères et sœurs dans les montagnes de l'Ariège, éduqué par des parents qui ont fait des choix assez radicaux, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école. Et ce matin, au marché, j'ai rencontré ta maman qui m'a dit, très fièrement, quoi, ma fille a écrit un bouquin et obtenu un prix littéraire. Comment est-ce que tu en es venue à écrire? Et comment est-ce que tu as été perçue lorsque tu as rencontré ton premier éditeur?
Ben, c'était magique parce que, au départ, j'ai écrit tout pour moi, sur papier. Et le jour où j'ai publié ce livre, avant de le publier, j'ai donné à mon père, je lui ai dit, écoute, lis chapitre après chapitre et dis-moi si je suis assez diplomate, parce que lui, il est très juste. Et il m'a répondu, il y a des petits passages, bon, il m'a rien dit, pas trop de critiques. Et ma mère, elle a commencé à lire et elle s'est arrêtée là où ça a fait mal. Parce que bien sûr, on n'est pas des parents parfaits, jamais, même si on veut l'être. Et y a des moments, quand on écrit, c'est dur d'écrire sur sa famille, finalement. Et moi, je l'ai fait dans un élan naïf et plein d'amour pour eux. J'étais partie longtemps et quand on a vécu, je ne sais pas si c'est par rapport à la vie qu'on a eue, j'avais beaucoup, beaucoup d'amour. Ils m'ont beaucoup manqué, d'ailleurs, quand je faisais le tour du monde, que je me suis retrouvée à l'autre côté de la Terre. Ils m'ont manqué, je pensais souvent, on était reliés, finalement. Et... quand je suis revenue ici, je me suis mis à écrire. Et donc, ma mère, j'envoie ce livre à 10 éditeurs différents. Je n'y connaissais rien dans le monde de l'édition. Je l'envoie donc à 10 éditeurs. Et il y a une enveloppe que j'ai embrassée, c'est Glénat. Et quand j'ouvre l'enveloppe, eh bien, grosse surprise, j'ai un courrier dedans qui me disent « Votre histoire est captivante. » Il faut savoir que j'en avais fait 3 tomes. Et je leur avais envoyé que la première sur mon enfance. Donc, c'était vraiment... Ils avaient toute l'histoire, donc c'était de mon enfance, c'était très concentré. Elle me dit, c'est très intéressant, par contre, pour un lecteur lambda, c'est trop épais. Il faudrait éclaircir tout ça, il faudrait le condenser. Donc, c'était pas oui, c'était pas non, mais il y avait une réponse pleine d'espoir. Donc, je les ai appelés, et on en a parlé, et je me suis dit, bon, d'accord, ok, je vous le condense. Je me suis dit, aïe, comment qu'on a dansé tout ça? Donc, j'ai repris le travail. Et là, entre-temps, donc, avant de faire ça, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, écoute, il faudrait que tu finisses, parce que moi, je n'oserais pas le publier si tu n'as pas lu le livre. Pour moi, c'est très important. Donc, elle l'a lu, parce qu'il y a des moments très blessants pour elle dedans. Et elle me dit souvent, je n'ai pas eu le bon rôle dans le livre. C'est vrai. Et donc, l'éditeur m'a répondu. Donc, c'est long à chaque fois. Et ils m'ont dit, oui, on prend. Et là, pour moi, ça a été extraordinaire. Rien que ça, J'ai été pendant bien un an, mais complètement sur un petit nuage, quoi. Et ma première dédicace, ça a été énorme parce que les gens qu'on me disait, oui, eux, c'est des fachos. Voilà, on était quand même dans un milieu de néo-ruraux. Donc, il y avait les étiquettes, elles étaient là, d'un côté comme de l'autre. On me disait, eux, c'est des néo-ruraux, eux, c'est des fachos, eux, c'est de l'extrême droite. Enfin, genre, on entendait de tout. Et bien, toutes ces personnes que je voyais de loin, que j'ignorais, qu'ils n'avaient que des étiquettes, je les voyais par étiquette. Hein. Ces personnes-là sont venues me serrer dans les bras en pleurant, en me disant merci. En fait, on s'est complètement gouré. Et là, ils se sont ouverts à moi. Ils m'ont dit, vous savez, nous, on pensait que les hippies, c'était complètement autre chose. Et en fait, mais on a pleuré ensemble parce que pour moi, ça a été énorme. C'était le plus beau cadeau. Et en fait, ils se sont mis à nu aussi en face de moi. Et pareillement, et on s'est rendu compte que, ben, qu'on n'était pas tellement différents. Au final, on est tous humains. Et donc, ça a été, mais ça m'a enlevé, moi, tout le malaise. Pourquoi je ne voulais pas revenir à Massat à cause de tout ça? Et là, je me suis rendu compte que ben, l'écriture, c'était énorme. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter puisque j'ai découvert ma passion finalement. Ben, je me suis formée. Je fais encore des fautes, mais je continue à faire des recherches, à travailler aussi mes lacunes. Et j'en suis complètement passionnée. Donc, avec mon mari, on s'est rencontrés de l'autre côté de la Terre. Et donc, j'ai deux passions, trois passions. J'ai ma famille, j'ai les voyages et l'écriture. Et j'essaye de marier tout ça, de pouvoir jongler avec ça, de pouvoir vivre avec ça. Donc, c'est vraiment un jonglage, hein, parce que c'est pas évident non plus. Mais du coup, j'ai écrit donc, Mon enfance sauvage. Et après ça, j'ai demandé à mon mari de m'amener dans un pays où les cultures étaient très ancrées. Donc, il m'a amené au cœur de la Jordanie, chez les Bédouins. Donc, avec nos deux enfants, on s'est retrouvés là-bas. Et encore une fois, mes idées préconçues ont pris une grosse baffe dans la tête parce qu'on entend un tas de choses, que ce soit par les médias, par les amis, par notre entourage. Et quand on est sur le terrain, ben, je pense que tu le sais, toi qui voyages beaucoup, c'est toujours différent. Et du coup, ben, j'ai fait un roman sur une femme, sur une Française qui est loin de tout ce que la nature peut nous donner. Elle est très, bah, c'est une femme très civilisée, avec un enfant qui a tout, qui est débordé, mais qui est finalement malheureux. Et par la force des choses, elle va se retrouver coincée chez les Bédouins. Au départ, elle se rebelle complètement, parce que pour elle, il y a hors de question. Elle est pleine d'idées préconçues aussi. Et bon, elle est coincée, il faut qu'elle y reste un an. Et elle va réapprendre. En fait, elle va apprendre à vivre simplement avec les Bédouins. Et toutes ces idées préconçues, elles vont fondre. Elle va se rendre compte que finalement, ben, tout ce qu'on lui dit ou tout ce qu'elle a cru, ben, c'était des on-dit, c'était pas forcément vrai. Et elle va se lier d'amitié avec une Bédouine de son âge là-bas. Et voilà, c'est toute l'histoire de... Voilà, c'est un peu un pont entre nos chocs de culture. Et puis au final, on est très opposés. Et au final, on a certaines valeurs qui se ressemblent. Donc voilà, c'est un peu mes recherches. Mais je continue à faire des romans sur nos voyages à chaque fois. Et ensuite, les récits qui parlent de mon pays.
Donc ton premier bouquin, Djala Maria Lunga, c'est Mon enfance sauvage, un récit qui retrace un petit peu ton enfance ici dans les montagnes ariégeoises.
Et ensuite, donc, j'ai fait un roman qui se passe donc, chez les Bédouins, en Jordanie.
C'est le deuxième, celui-là.
Donc ça, c'est le deuxième. C'est La rebelle du désert, qui est un roman. Et ensuite, j'ai réécrit un récit sur les Pyrénées. Pourquoi ? Parce que je fais énormément donc, de conférences et de dédicaces dans les lycées et les collèges. Et toutes les questions qu'on me posait, c'était toujours... Les conférences, je les fais par rapport à mon premier livre qui fonctionne très bien, qui touche beaucoup de gens. Et donc, les questions, c'était « Mais vos parents n'étaient pas les seuls à vivre en autarcie. Il y en a eu d'autres. Quelle a été la relation avec les gens du cru? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de néo-ruraux à Massat? Pourquoi ce choix de vie ?» Du coup, j'ai écrit Terre Courage, qui est la réponse à toutes ces questions finalement. Donc c'est plus centré sur ma famille, c'est sur toutes ces familles qui sont venues s'installer à Massat. Pourquoi? Et la relation qu'ils ont eue donc avec les gens du cru.
Merci beaucoup Djala Maria Lunga, merci à toi, merci pour cet entretien et merci pour avoir partagé avec nous un petit bout de toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Thank you.